Bien, nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 10 janvier 2019, Parashat Bo. Alors nous allons voir en quelques minutes, quelques secondes, un certain nombre d'éléments fondamentaux pour comprendre d'abord ce que c'était l'Égypte et ce qu'étaient les Hébreux. En premier point fondamental, c'est que Moshe arrive au niveau de la septième plaie des sauterelles et il a un doute, disent les Rachamim. Comment je vais me présenter devant Pharaon? C'est quand même le roi, quelque part, des mondes, une superpuissance. Et je bégaye, je vais aller le rencontrer avec mon frère Aaron, et il n'était pas complètement chalem avec ça. Il n'avait pas fait en lui l'unité encore, à 100%. Il était Moshe, il était extrêmement élevé, il était évidemment dans la Torah et dans la vérité, bien entendu, mais il lui manquait quand même quelque chose. Je vais quand même voir le roi du monde actuel, quoi, d'une superpuissance. Et là, je vais annoncer la mort des premiers-nés, la septième, ce sont les sauterelles, la huitième, ce sont les sauterelles, la neuvième, c'est la confusion, l'obscurité, les ténèbres, et la dixième, la mort des premiers-nés. Donc je vais venir avec chargé de quelque chose, d'une menace incroyable. Je dis, n'aie pas peur. Je suis derrière Pharaon. C'est quoi Pharaon? C'est rien du tout. Tout a été déjà organisé depuis Bereshit. Ne t'inquiète pas. Je suis moi, Dieu, dans la tête de Pharaon. Bon, les paroles, n'aie pas peur. C'est quoi l'Égypte? Alors, on va essayer de comprendre rapidement le problème. L'Égypte, c'est un empire, évidemment, qui existe à chaque génération et qui existe, évidemment, à la fin des temps. Évidemment, aujourd'hui, l'Égypte est un empire extrêmement fructifiant, extrêmement développé pour chacune des époques, et qui s'auto-nourrit d'impureté. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Le pharaon, c'est l'impureté de l'impureté. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? C'est la non-capacité de comprendre et de voir la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu 1. Nous savons, nous, que Dieu, évidemment, est lié directement à la lettre Aleph, étant l'unité. Et vous le savez.
1 et 100.
Vous avez ici le Yud, dans le Aleph. On l'a déjà dit plusieurs fois, ça. Après, vous avez le Vav, et vous avez le Yud en bas. Vous avez un Yud en haut, absolument élevé, extrêmement caché, inatteignable pour l'homme. Mais on sait qu'il existe. Mais le Yud d'en bas, il est évidemment porteur d'Elohim, porteur de force, porteur de création. Ce Yud d'en bas, qui est lié directement par le Vav, par le lien entre le Yud, avec le Yud d'en haut, ce Yud d'en bas a été, si vous voulez, quelque part, capturé par l'Égypte. Suivez-moi bien. Et ce Yud-là, il a été source de très nombreux, entre guillemets, forces, divinités, qu'on appelle les idoles. Alors, en Égypte, ce nom de Dieu, Yud, a été dépecé en l'infinité de Dieu. On dirait aujourd'hui Dieu vacances, Dieu retraite, Dieu Aparnassa, Dieu carte bleue, Dieu... chacun avait son Dieu. Et c'est quoi cette Égypte-là? C'est le fait, en fin de compte, que le nom de Dieu ne puisse jamais, dans sa plénitude, se révéler. De manière à ce que le Aleph ne se reconstitue pas dans ce monde. C'est ça l'Égypte. Donc elle devait payer très fort les plaies d'Égypte, comme par hasard 10. Pourquoi 10? Parce que c'est Yud, vous avez compris. Ce sont les 10 paroles. Dieu a créé le monde avec les 10 paroles. Et l'Égypte veut prendre ce 10, le démultiplier et s'acquérir ses forces pour régner sur le monde, c'est-à-dire contre le Dieu 1. Chaque plaie est donc la reconstitution, vous comprenez ça, du 10, du Yud, d'en bas. Et quel a été le travail des Hébreux? Je ne parle pas de tous les Juifs descendants d'Abraham et Jacob. Très peu sont sortis, dit Rashi. On le sait absolument par cœur. Selon Rashi, 1 sur 5 est sorti. C'est quoi un Hébreu? C'est quelqu'un qui est capable de recomposer le Aleph, l'unité. Le Yud en haut et le Yud en bas. Mais le Yud en bas était, dans le monde d'Elohim, extrêmement divisé. Donc, il était très fort, Pharo. Il était dans le monde de l'obscurité, mais de la division. Il n'avait aucune possibilité de reconstituer le Aleph. C'est pour ça qu'il a eu très peur, Moshe. Et je vais arriver devant un bonhomme complètement impur, une folie, extrêmement puissant, puisqu'il a toutes les forces d'Elohim sur lui. Mais il n'a pas la capacité de reconstituer en lui le Aleph. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Je suis derrière. C'est moi qui suis sur la tête, dans la tête de Pharaon. Alors, qu'est-ce que c'est un Hébreu? C'est quelqu'un, je répète, qui a réussi à faire le lien en lui avec les 10 plaies et grâce aux 10 plaies. Parce que les 10 plaies étaient destructeurs pour l'Égypte, mais constructeur pour les Hébreux. Les 10 plaies ont permis aux Hébreux de se reconnecter avec le Dieu 1 maître de l'histoire. C'est pour ça que à la 9e plaie, alors la 8e plaie, ce sont les sauterelles, la 9e plaie, ce sont les ténèbres, et la 10e plaie, la mort des premiers-nés. D'accord? Suivez-moi bien, s'il vous plaît. C'est pour ça que à la 9e plaie, tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui n'avaient pas fait le Aleph en eux ne sont pas sortis d'Égypte. Ils étaient égyptiens. Ils vivaient dans le multiple, dans la séparation. Seulement ceux qui étaient capables de comprendre qu'il y avait un plan derrière tout ça, ceux-là sont sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu par l'intermédiaire de Moshe? Prends un agneau, un bélier. Attache-le le 10 Nissan. C'est un Shabbat d'ailleurs, Shabbat Agadol. Un 10 Nissan. Au fronton de ton. Au pied de ton lit. Pendant 4 jours. Ils sont sortis le jeudi vers. À Khatsot. Juste après Khatsot. Aux environs de minuit, 1h du matin, 2h, 3h du matin. Par là-bas. Jeudi. Entre Shabbat, samedi et jeudi. Les Bnei Israël étaient en danger. Pourquoi? Parce qu'on a pris un dieu égyptien qui s'appelait le bélier et on allait le tuer. Et les Égyptiens le savaient. Que fait Akadosh Baruch Hu? On l'a dit l'autre fois, vous vous rappelez? Il fomente une guerre civile. Il fomente une guerre civile de manière à ce que les Égyptiens perdent des pédales. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre civile? Au niveau de l'obscurité, malheureusement, tous les Hébreux, enfin non, les Juifs qui ne sont pas devenus des Hébreux, qui n'ont pas réussi à faire l'union entre eux, qui ne sont pas sortis d'Égypte, qui ne comptent pas, sortir, ils ont été tués avec la 9e plaie. Ceux qui sont sortis, ce sont ceux qui étaient capables de quoi faire? De prendre un agneau, un bélier, qui était un dieu égyptien. Donc il fallait une limouna formidable. Et pourquoi ils avaient cette émouna? Parce qu'ils ont fait, Noah, vous avez compris, ils ont fait le lien entre les différents lettres du nom de Dieu. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, c'est Aya, Ové et Iyé. Aya étant le passé, Ové étant le présent, Iyé étant le futur. Le passé, la sortie d'Égypte il y a 3500 ans, regardez le présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que Dieu, il est présent dans chaque génération, à chaque instant, à chaque seconde. Et projetons le présent avec le passé relié dans le futur. Et vous comprenez comment ça va se terminer à la fin des temps de l'histoire. Parce que Dieu, il est partout. Il est présent. Et qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, aux Hébreux, de dépasser le temps. D'où Rosh Chodesh. C'est pour ça que la première mitzvah qui a été donnée, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. La deuxième mitzvah qui a été donnée, c'est... Bon, je dis ça de mémoire, évidemment, je peux me tromper d'ordre. Ce sont les Tiflin. On verra ça tout à l'heure d'importance. La troisième mitzvah fondamentale, c'est la Mila. La circoncision. Pour les hommes, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rosh Chodesh, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi Dieu a donné Rosh Chodesh ? Première mitzvah. Parce que Rosh Chodesh, d'abord, Rosh, c'est la tête. Chodesh du mois. La tête du mois. Qu'est-ce que c'est que la tête du mois ? La tête du mois, c'est un jour extrêmement spécial, extrêmement fort, extrêmement puissant. En lui, se regroupent toutes les actions, toutes les réalisations, toutes les prières qu'on a fait du premier jour du mois au dernier jour du mois précédent. J'ai rencontré cette personne, j'ai rencontré ça, j'ai fait ça, j'ai été à la banque, j'ai fait ça, j'ai retiré de l'argent. Tout ça, ça a un sens. Rosh Chodesh prend ce sens-là, le sanctifie et le projette sur le mois suivant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça veut dire Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire la tête de l'année. C'est tout ce qu'on a fait dans l'année antérieure qui prend son sens par le chauffard. Réveillez-vous, tout ce que vous avez fait, c'est un sens. Il n'y a pas de petites actions qui servent à rien. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de hasard chez nous. Et on va le projeter de l'année à venir. Ça, c'est Rosh Hashanah. Donc, Rosh Chodesh, c'est fondamental. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que les Grecs, au temps de Hanouka, ont voulu empêcher Rosh Chodesh. Parce que s'il n'y a pas Rosh Chodesh, on rentre dans le monde de la chance, dans le monde du hasard. Tandis que chez nous, tiens, attention, il y a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est les forces de la lune, hein. Et la lune est en Israël. C'est pour ça qu'on fait la bracha de Rosh Chodesh sur la lune. Israël, c'est la lune. Ésaü, c'est le soleil. Esav, c'est le soleil. Maintenant, regardez. La deuxième mitzvah, ce sont les tiflin, très important. Pourquoi ? Parce que les tiflin permettent à l'hébreu, de se connecter par rapport à l'au-delà. Vous avez les tiflin, bon, je parle pour les hommes, mais pour les filles d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est les hommes qui les mettent. Vous le mettez au-dessus, dans votre tête, le tiflin de la tête, c'est un carré qui correspond à un pardès, le pardès, pshat, remez, rassod, le Gan Eden est de forme carrée, n'est-ce pas ? Vous le mettez entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Ici, au niveau des fontanelles. Pourquoi ? Parce qu'il va relier les forces qu'on va recevoir sont des forces d'unification. Il va unifier quoi ? Le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche étant le cerveau de la raison, du rationalisme, j'allais dire Descartes. Et le cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition, l'intuition prophétique. Quand Moshe, il parle à Pharaon qui a le cerveau gauche hypertrophié et le cerveau droit, au contraire, extrêmement réduit, il ne peut pas comprendre. Alors, pour pouvoir nourrir le cerveau droit et le cerveau gauche, il faut le tifunin. Ça, c'est une première chose. Et tous les jours. Deuxième type de tiflin, très important, le bras. Le bras étant lié directement aux forces du cœur. Les forces du cerveau et les forces du cœur doivent être liées. Alors vous mettez, les garçons, et bientôt les filles, mais pour l'instant, les garçons, vous les mettez au bras, et vous allez faire, regardez, au niveau du cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu dit à travers les tiflin, attention les plaisirs, il y a des limites à tout. Attention, tu dois, toi, hébreu, réfréner le plaisir. Parce que tu sors d'Égypte, là. Attention. Tout a un code et tout est observé. Et je suis partout. Donc attention. écoutez-moi bien, c'est très important. Et ce ce fait de réfréner les plaisirs, n'est-ce pas, les tiflines en sont le symbole. C'est quoi les tiflines? C'est une sorte d'émetteur-récepteur. On reçoit et on émet des forces. Comme le Kohen. Vous voyez, le Kohen Gadol, pour ceux qui connaissent un peu, il fait comme ça. D'accord? Il reçoit les forces d'en haut et il les distribue horizontalement. Maintenant, autre chose très, très, très importante, c'est que le tiflin de le bras, vous faites 7 ronds. Pourquoi 7 ronds? C'est pour, tout simplement, les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, etc. Les 7 jours de Pessah, etc. Qu'est-ce que c'est que ces 7 jours-là? Ce sont les temps d'Elohim. Et c'est quoi le 8e jour? C'est le voilà, ici, avec le gros, d'accord, le gros doigt du milieu, d'accord? On fait un yud, comme ça, et on met 2 et 1 du bet, du monde d'Elohim, on sort le Aleph. Vous avez compris? Et après, on fait 2. Bon, nous, les séfarades, on fait 2. Les Eskenazes, ils font 1. Bon, enfin, c'est la même chose. Chacun sa manière de mettre. Et les deux sont justes, évidemment. On est frères, déjà, Eskenazes, mais réciproquement. Et on attache le 2 en 1. Ça veut dire quoi? Seulement ceux qui ont mis les tiflines, vous pouvez comprendre qu'on passe du 7 au 8. D'où la Mila, le 8e jour. Vous avez compris? La Mila, c'est lié au 8e jour. Ceux qui n'ont pas fait la Mila ne pouvaient pas sortir d'Égypte. Point. C'était un ordre absolu. Pourquoi? Parce que la Mila, le 8e jour, c'est lié directement à Yukiv Afke. C'est lié directement à l'éternité. Pour entrer en Eretz Israël, il fallait 1. Rosh Chodesh, 2. Tefillin, 3. Mila. Vous avez compris? Maintenant, un point très important avant de finir. Très, très important. C'est que HaKadosh Baruch Hu, il demande de prendre cet agneau pascal avant de le manger, c'est le Korban Pessah, avant de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? De prendre son sang et de mettre avec de l'ésope. Pourquoi de l'ésope? L'ésope, c'est une plante, un petit arbre, d'où la anava. Anava, ça veut dire l'humilité. Un petit arbre très, très petit et très, 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 très humble par rapport aux grands arbres. Prends de l'ésope, dit Dieu, mélange-le avec le sang de l'agneau et mets-le au fronton des portes. Alors attendez, si tu as des traces de sang, bien sûr, sur le sang, bien sûr, sur le sang. C'est le sang de la Mila, entre parenthèses. Le sang de la Mila et le sang de l'agneau sont reliés. Maintenant, regardez, c'est très important ce que je vous dis là. Les maîtres du sol disent que le côté gauche du fronton de la porte, ce sont les forces de Yitzhak, la Gvoura, le Din. Le côté droit, c'est le force d'Abraham Avinu, le Chesed. Et les forces du milieu, ce sont les forces de Yaakov. Et où on mettait? On mettait sur le fronton. C'est quoi le fronton? C'est la partie du milieu. Ça veut dire Israël, Yaakov. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, un point très important, et je finirai là, c'est qu'en fin de compte, c'est quoi cet ésope? Cet ésope, c'est la Hanava. Alors regardez. Tout être humain doit être comme Moshe, disait Rachamim. Ça ne veut pas dire qu'on va être Moshe, bien entendu. Il y a un seul Moshe, il n'y en aura pas deux. Mais chacun juif hébreu doit être comme Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire comme Moshe? Qui était Moshe? Moshe, il avait réussi, dans le monde de la matière, à sublimer la matière, c'est-à-dire à développer au niveau de la matière ce qu'on appelle le da'at, la connaissance. Ça, c'est Moshe. Il était le maître de la connaissance. Il savait tout, énormément tout. Puis, du da'at, on arrive à ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Yirat Shamayim, en hébreu. La crainte de Dieu. Seulement celui qui a la connaissance vraie peut avoir la crainte de Dieu. Il comprend ce que c'est qu'Hachem. Puis, au-dessus, une fois qu'on est arrivé au niveau de la crainte, on rentre dans ce qu'on appelle la anava, au-dessus. Alors, la anava, qui comporte tout, le da'at, et qui comporte la crainte de Dieu, la anava, c'est tout simplement un être qui, face à la volonté divine, cesse d'exister. Il n'est plus rien. Il est tout esclave, mais de Dieu. Pas esclave des nations, pas esclave de l'argent, pas esclave de l'Égypte, esclave de Dieu. Et là, il devient parfaitement libre. Vous avez compris? C'est bon? Voilà, vous avez compris, est-ce que vous avez des questions à poser? Voilà, merci beaucoup. C'est bon? On a...